honneur. Plusieurs sont ceux qui te cherchent, mais ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise, tu n'es pas en elle. On a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur.
Bien aimé, très heureux de vous retrouver pour cette semaine. Nous allons donc entamer cette semaine une nouvelle série de réflexions concernant la manne quotidienne. Et je vous propose comme thème pour cette semaine, si tu veux le bonheur. Permettez-moi de vous lire un psaume bien connu, le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le thème donc de cette semaine est « Si tu veux le bonheur ». Il est évident que nous avons tous une certaine conception de ce que pourrait être le bonheur. Le monde dans lequel nous vivons a aussi sa conception de ce qu'est le bonheur. Il suffit de lire la parole de Dieu pour nous rendre compte que la conception du bonheur selon Dieu n'a rien à voir avec celle de l'homme. Pour la plupart des hommes, le bonheur s'inscrit dans une certaine réussite professionnelle, une réussite sociale, une réussite familiale. Ajoutez à cela une bonne santé, un compte en banque bien rempli, et vous avez à peu près la définition du bonheur selon le monde et la société dans laquelle nous vivons. Et voilà que surgit une crise sanitaire. Et tous ces repères que je viens de décrire sont balayés. Tout ce qui pouvait faire le bonheur des gens s'écroule. La santé n'est plus au rendez-vous, sans parler des situations économiques et des difficultés au niveau de l'emploi. À travers de cette pandémie, nous nous rendons compte que tout peut s'écrouler en un instant comme un simple château de cartes. Et le monde entier vit cet effondrement. Rien n'est stable. Rien n'est sûr dans ce monde. Mais les disciples de Jésus que nous sommes savent que Dieu est stable, que sa parole méprisée et critiquée demeure stable. Pouvons-nous connaître le bonheur dans les pires temps de crise? La réponse est oui. Cela dépend où nous allons chercher ce bonheur. Quelle est la source de notre bonheur? Le psaume 1 est certainement le psaume qui nous éclaire le plus sur ce qu'est le bonheur selon Dieu. Je trouve extraordinaire que ce livre de cantiques, car les psaumes sont des cantiques dont nous avons perdu la mélodie, mais grâce à Dieu, pas les paroles inspirées. Et l'essentiel n'est pas la mélodie, mais bien les paroles inspirées. Permettez-moi de faire une parenthèse. Je fais une simple parenthèse en disant que nous devrions aujourd'hui, dans nos cantiques, nous attacher bien plus à des paroles inspirées du Saint-Esprit qu'à de belles mélodies, car la mélodie peut toucher les sens, les émotions, c'est vrai, mais seules les paroles inspirées touchent les cœurs et les consciences. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que tout commence par ce mot « heureux » ou, dans l'original, « béni ». Dieu désire plus que tout que l'homme soit heureux. Et pour cela, il faut qu'il soit béni de sa part. L'homme heureux, selon Dieu, n'est pas celui qui a une bonne santé, un bon travail ou un compte en banque bien rempli, même s'il est évident qu'il faut un minimum pour vivre. L'homme heureux, c'est celui que Dieu bénit. Et ses bénédictions sont toutes en Jésus-Christ, car tout est en rapport avec Jésus. Enlevez Jésus de la Bible et il n'y a pas de bénédiction. Enlevez Jésus de votre vie et il n'y a plus de bénédiction, même avec la santé et la richesse. Il y a peut-être quelque chose de dérangeant, mais c'est cependant la vérité. Vous savez, la vérité divine est souvent dérangeante. Elle dérange nos conceptions, nos arrangements avec notre conscience. Ce qui est dérangeant, c'est que celui qui n'est pas sous la bénédiction de Dieu est alors sous la malédiction. Celui qui marche avec Dieu est béni. Celui qui ne marche pas avec Dieu est maudit. Je sais en le disant combien cela peut être choquant et dérangeant, mais c'est la vérité. La bénédiction de Dieu est une réalité et malheureusement, la malédiction est aussi une réalité. Nous vivons dans un monde où on relativise tout. Et parfois, chez certains, on relativise même l'autorité de la parole de Dieu. Écoutez bien, pas la parole, mais son autorité. On relativise certains versets. On nous dit, oui, bon, il ne faut pas les lire au premier degré. Il faut relativiser cette vérité. Mais bien aimé, on peut toujours relativiser la vérité de Dieu. Elle demeure toujours la vérité. Quelqu'un, par exemple, atteint d'un cancer peut toujours relativiser son cancer. Mais en vérité, il est atteint d'un cancer et en relativisant, il risque d'en mourir. La vérité divine demeure la vérité. Et c'est notre assurance que Dieu ne change jamais de vérité. Est heureux celui qui est béni de Dieu. Et la bénédiction est d'abord une bénédiction spirituelle. Beaucoup cherchent aujourd'hui la bénédiction matérielle ou celle au niveau de la santé, même parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, la fausse doctrine de la prospérité fait tant de ravages et d'adeptes, car les gens sont intéressés par ce type de bénédiction. Mais la bénédiction est d'abord spirituelle. Si vous avez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous êtes béni, et donc vous êtes heureux. Vous n'êtes plus sous la malédiction à cause de vos péchés. Vous savez, Dieu ne choisit pas ceux qu'il bénirait et ceux qu'il maudirait, comme s'il préférait certains à d'autres. Dieu bénit, sur le plan spirituel, ceux qui ont accepté Jésus son Fils. Et nous le verrons, ceux qui ont une certaine marche. C'est un point important, cette marche, dans ce psaume premier. Dans son épître aux Galates, Paul dira, au chapitre 3, au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Oh, ce verset, simple verset, et combien merveilleux et glorieux. Il nous est dit que Christ est devenu malédiction pour nous. À la croix du calvaire, Jésus est devenu malédiction pour nous. La loi ne pouvait sauver, et tous ceux qui étaient sous la loi étaient maudits. C'est ce que dit le verset 10 de ce même chapitre 3, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » La vérité, c'est qu'il est impossible d'obéir à toute la loi. Et donc, à cause même de la plus petite désobéissance, il y a transgression de toute la loi. Et parce qu'il y a transgression de toute la loi, même en désobéissant à un simple petit commandement, eh bien, l'homme est sous la malédiction. Et jusqu'à la venue de Jésus, mourant sur la croix, l'humanité était sous la malédiction à cause de la loi. C'est pourquoi Jésus, mourant sur la croix, a pu dire « Tout est accompli ». Il a accompli parfaitement la loi et donc peut nous sauver. La malédiction, et il faut le dire, et je termine avec cela, impliquait la colère d'un Dieu juste qui condamnait le pécheur et le contrevenant à la loi. De cet état de condamnation sans espoir dans lequel le pécheur était non seulement impuissant à se racheter, mais impuissant à satisfaire les justes exigences de la loi et ainsi trouver l'acceptation avec Dieu, Christ nous a rachetés en satisfaisant les justes exigences de la loi que nous avions violées. C'est pourquoi désormais, pour ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'y a plus de malédiction, mais bien la bénédiction, et il connaît le bonheur. Non pas le bonheur au travers des richesses, d'une santé parfaite, mais le bonheur de savoir qu'il est béni de Dieu au travers de Jésus.
Jésus, j'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, que tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'accomplie. Je suis le...
Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu veux que nous vivions heureux, tu veux nous donner le bonheur, le vrai bonheur. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir aimés au point de devenir malédiction sur la croix. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as subi la colère de Dieu, alors que cette colère était pour nous, c'est toi qui l'as subie pour nous. Et merci, notre Dieu, parce que nous voulons apprendre à marcher avec toi, à marcher de plus en plus en communion avec toi, à marcher dans la crainte de Dieu et dans le désir d'honorer le nom de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à connaître une plus grande communion avec toi, un plus grand partage avec toi. Merci pour le bonheur que tu nous donnes de te connaître. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. À très bientôt.